S'il m'incombe de vous faire ce petit topo, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je connais un peu les faits pour avoir participé aux travaux de la commission d'enquête citoyenne, en qualité de juriste, une commission d'enquête qui n'a aucune qualité pour être partie civile et qui n'est pas dans la procédure. Et la deuxième raison, c'est que j'ai enseigné pendant pas mal de temps le droit international, notamment dans sa version privée, qui est plus directement concernée. Alors c'est pour ça que je vais vous faire un petit cours, rassurez-vous, très bref, de droit international pour répondre au parquet. L'argument du parquet, vous venez de l'entendre, mais je le répète, consiste à dire que Mme Reynaud, sur le territoire de l'ambassade de France, est en territoire étranger parce que l'ambassade de France n'a pas le bénéfice de l'extraterritorialité. Alors, cette observation sur le statut du territoire de l'ambassade est absolument impeccable. C'est enfoncer une porte ouverte. Le territoire des ambassades à l'étranger, c'est le territoire de l'État étranger sur lequel s'applique la loi de l'État étranger sous deux réserves. Celle des immunités que garantit le droit international et plus particulièrement la Convention de Vienne de 1961, avec le privilège dit de l'hôtel qui fait que les autorités locales n'ont pas à pénétrer sans l'accord du chef de mission sur ce territoire. Et la deuxième réserve, c'est que fonctionne à l'intérieur du territoire de l'ambassade ou des locaux consulaires un service public de l'État d'envoi. À Kigali fonctionne à l'ambassade de France le service public diplomatique français. Évidemment, il fonctionne conformément à la loi française. Mais il n'empêche que si quelqu'un assassine quelqu'un d'autre dans les couloirs de l'ambassade, c'est la loi rwandaise qui s'applique et les juridictions rwandaises qui sont compétentes, à moins qu'il n'y ait en plus une compétence pour les juridictions françaises, ce qui peut tout à fait se concevoir. Donc, acceptons l'affirmation de départ du parquet. Madame Reynaud est allée à l'étranger, avec toutes les garanties possibles, mais elle est allée à l'étranger. Alors, le parquet, à partir de cette observation, soutient que parce qu'elle était à l'étranger, Madame Reynaud ne pouvait pas entendre les parties civiles. Elle devait passer par l'intermédiaire des autorités rwandaises à qui elle devait donner une commission rapporteur, c'est-à-dire un mandat de la représenter dans cette fonction. Alors il faut savoir que Madame Reynaud agissait dans le cadre de règles parfaitement applicables à la fois en France et au Rwanda. Des règles qui, dans la mesure où elles étaient françaises, sont d'application extraterritoriale. Il est tout à fait classique que les tribunaux d'un État soient compétents pour réprimer des crimes ou des délits qui ont été accomplis à l'étranger. Et c'est tout à fait conforme au droit international. Il y a notamment un vieil arrêt de la Cour permanente de justice qui est encore plus vieux que moi, qui date de 1927 dans l'affaire du Lotus, qui garantit cette compétence aux États. Les avocats sont de grands pervers. Et Madame Reynaud, par conséquent, agit dans le cadre d'une double compétence, celle que la loi française lui donne en qualité de magistrat militaire appartenant au service public de l'armée pour instruire les crimes éventuellement commis par des militaires français et commis à l'étranger comme en France, peu importe, le code de justice militaire, article 59, je crois, est tout à fait clair là-dessus. Et puis elle agit également sur le fondement d'une loi du 22 mai 1996 qui donne aux tribunaux français la même compétence que le tribunal international d'Arusha pour réprimer les faits caractérisés par la résolution 955 du Conseil de sécurité, les faits constitutifs de crimes ou de complicité, de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis au Rwanda ou dans les États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Alors, quant au fond, Madame Reynaud, et personne ne le conteste, est parfaitement justifiée à faire ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait dans le cadre du code de procédure pénale français. Une seule raison pourrait s'opposer à ce qu'elles entendent les parties civiles conformément à la demande du parquet et conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, ce sont les raisons tirées de la souveraineté de l'État rwandais. Parce que le même arrêt du Lotus de 1927 dont je vous parle dit que lorsqu'il s'agit d'appliquer, de mettre en œuvre les règles extraterritoriales d'un État, de les mettre en œuvre sur le territoire d'un autre État, alors cette mise en œuvre rencontre un obstacle, c'est celui de la compétence territoriale exclusive des autorités locales. Donc, dit le parquet, Mme Reynaud ne pouvait pas intervenir parce que ça, c'était le monopole des autorités rwandaises par l'intermédiaire desquelles il fallait passer. Alors, l'os, si j'ose dire, dans le raisonnement du parquet, c'est que cet obstacle, le seul obstacle à l'exercice par Mme Reynaud des pouvoirs que lui donne l'article 86 du Code de procédure pénale, le seul obstacle, c'est la souveraineté rwandaise. Rien dans la loi française ne lui interdit de fonctionner sur le territoire de l'ambassade. Rien du tout. Surtout depuis notamment une réforme Perben de 2004 qui donne aux officiers de police judiciaire, pas aux juges, aux simples officiers de police judiciaire, le pouvoir de fonctionner à l'étranger sur ordre du parquet sous réserve de l'accord des autorités locales. Et c'est là qu'est l'os. L'obstacle constitué par la souveraineté étrangère peut être levé par l'exercice de cette même souveraineté lorsque l'État étranger est d'accord. Il y a deux façons, schématiquement, pour cet État d'exprimer son accord, ou bien de façon générale, par voie de convention internationale, et c'est ce qui vous explique pourquoi Madame Reynaud, par exemple, juge d'instruction militaire, tous ces derniers mois, s'est promenée dans toute l'Afrique pour entendre des témoins, pour faire des actes d'instruction formels, pas seulement l'audition de parties civiles préalablement à l'éventuelle ouverture d'une instruction. C'est parce qu'il y a des conventions passées avec les différents États d'Afrique qui permettent aux juges d'instruction militaire de fonctionner chez eux comme ils fonctionneraient ici, sans passer nécessairement par l'intermédiaire des autorités locales. Et ce consentement qui est donné, éventuellement par convention, peut évidemment être donné au coup par coup, ponctuellement, en l'absence de convention. C'est une évidence, et une évidence dans laquelle d'ailleurs les textes français font allusion, notamment je crois à l'article 59 du Code de justice militaire. Et c'est ce qui s'est passé en l'espèce. Madame Reynaud, pour des raisons que vous expliquent peut-être les avocats qui sont meilleurs pénalistes que moi, ne pouvait pas donner de commission rogatoire parce que l'instruction n'était pas ouverte. Elle ne pouvait donc qu'aller elle-même entendre les parties civiles. Et pour cela, elle est passée par l'ambassade qui a recueilli l'accord des autorités judiciaires de Kigali, auxquelles Mme Reynaud a rendu plusieurs visites avant d'entendre les plaignants, pendant, entre deux auditions, et après. Elle a vu, je crois, le procureur général, le procureur national, bref, tout ce qui compte en la matière à Kigali. Alors pour se résumer, l'argument du parquet ne tient pas debout. Le parquet se fait le vengeur de la souveraineté rwandaise. Il n'a pas qualité pour faire cela. Et en réalité, le vengeur de la souveraineté rwandaise, c'est l'État du Rwanda. Il a donné son accord, il a levé l'obstacle. Et par conséquent, à mon humble avis, l'argument du parquet ne vaut rien.